Fakir kuş hiç unutmaz. Su altın eğitimsel yasayı da. Tarihte nice ve nite şehzade bilmeden atını taşımıştır. İşte onların sandıkalarında usta işi gazeller oyuldur.
Silans. C'est tour.
İstanbul etkileyici bir örnek. Çok merkezlik durumu var. Her yerde merkezler ve...
İstanbul, c'est un cas fascinant pour ça, c'est qu'on a une multicentralité, on a des centres partout et des périphéries partout. Vous aviez dès l'origine un site qui était éclaté avec à la fois le centre dans la péninsule historique, le centre Galata, le centre Üsküdar, le centre Eyüp et le centre Kadıköy. Donc d'emblée quelque chose d'éclaté qui rend très très compliqué la lecture en termes de centre et périphérie de la structuration de l'espace urbain. Alors ce qui est frappant à l'heure actuelle, pour parler vite, c'est l'étalement. En gros, depuis les années 50, la ville s'étale avec, dans les dernières décennies, une espèce d'accélération. Ce qui est nouveau là, c'est que maintenant, ce sont les pouvoirs publics, à la fois une agence centrale qui s'appelle le TOKİ et la mairie d'Istanbul, qui participent à cette recomposition d'Istanbul dans les périphéries à travers des gros programmes qui sont évidemment liés au destin des centres. L'idée, c'est de déconcentrer les centres, de les vider de l'activité. On parlait de Galata, très bon exemple. Toutes les activités productrices ont été évacuées dans des périphéries. L'idée, c'est de dédensifier la péninsule historique. On a actuellement 440 000 habitants, en gros, dans la péninsule historique, c'était l'arrondissement de Fatih. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'un tiers de cette population dégage. Il faut bien la reloger. Et on se saisit de tous les prétextes à l'heure actuelle. Ça fait travailler les entreprises de construction qui financent, ça c'est universel comme phénomène, qui financent les partis politiques. Donc on préfère construire du neuf plutôt que d'améliorer l'existant. Mais c'est bien révélateur de la façon dont les pouvoirs politiques actuels imaginent l'avenir d'Istanbul et imaginent cette recomposition avec des centres qui seraient touristiques, qui seraient dévolus à certaines fonctions nobles, qui seraient donc moins densément peuplées, puis des périphéries, soit résidentielles, soit dévolues à des fonctions bien, bien précises.
Nasıl bir öngörüde bulunduklarını gösteriyor. Payına yüce işlevler düşen, daha az yoğun turistik merkezler ve belirgin amaçları olan daha çok konut yapımına ayrılmış çevre kentler.
Littéralement, gecekondu veut dire ce qui est construit pendant la nuit. Il y a eu longtemps une entente tacite entre les employeurs et le gouvernement pour laisser les travailleurs qui migraient du reste de la Turquie construire leurs habitations eux-mêmes, à proximité de leur usine. Ça évitait à tout le monde de concevoir du logement social. Il y a eu dans les années 80 une explosion dans une décharge près d'un village gecekondu. C'était un accident, mais il y a eu des victimes et les familles ont fait une réclamation à la Cour européenne des droits de l'homme. En examinant le cadre juridique des gecekondu, La Cour a établi que les constructions étaient prises en compte par les pouvoirs publics, qui avaient construit des écoles, des canalisations. La présence de ces habitants était donc officielle et les municipalités y faisaient des investissements. C'est très différent des bidonvilles d'Amérique latine ou d'Asie. Turgut Özal, le président de l'époque, partait du principe que les pouvoirs publics ne pouvaient pas aider les plus pauvres, mais qu'on pouvait les laisser construire un immeuble de 4 étages. Ça permettait par ailleurs de minimiser les revendications sociales et d'éviter que les classes les plus basses ne rejoignent des groupes militants contre le régime. Je suis persuadé que les Gecekondu ont toujours été une sorte de solution pour le gouvernement. Ces gens étaient en même temps exclus et inclus dans le système. Tout change dans les années 2000, avec le rêve de faire d'Istanbul une ville globale. Les usines avaient déjà été repoussées hors de la ville. L'industrie déclinait, les centres commerciaux et touristiques se multipliaient, la ville s'est étalée. Alors s'est posée la question, que font ces gens-là juste au centre de la ville ? Donc, où sont ces gens maintenant ? Par exemple, les habitants d'Ayazma sont installés maintenant à Bezirganbaşı. Mais là-bas, on voit clairement que leur mode de vie n'est pas respecté du tout. Imaginez, vous habitez dans un quartier depuis 20 ans, vous y avez un réseau social, une relation de solidarité et tout est détruit. C'est une sorte de violation du droit. Les rapports de l'association de droit au logement, UN Habitat, posent des choses comme ça, une violation des droits des habitants selon l'ONU. On détruit leur culture et on les met dans des silos. Moi, j'appelle ces nouveaux immeubles-là des silos. Ce qui est intéressant, c'est que l'AKP disait au début, on est le parti des gens d'ici. Il disait qu'ils n'appartenaient pas aux milieux sociaux privilégiés du centre. Et maintenant, ils imposent un mode de vie à ces gens-là. Ils disent, vous devez apprendre à vivre dans les immeubles, c'est le temps qui nous l'impose. Non, ce n'est pas le temps. Ce mode de vie est le mode de vie de la classe moyenne, des bourgeois. Et en plus, ils parlent de la civilisation. Ils utilisent et pratiquent le discours moderniste de la République. Je sais bien qu'ils pensent que la population des Gecekondu ne mérite pas ces terres, qu'ils se sont contentés de les envahir et qu'ils devraient être heureux d'aller vivre dans ces nouveaux immeubles. Ils se disent aussi, vous pouvez vendre votre appartement, vous pouvez gagner aussi de l'argent de cette façon, l'argent que vous ne pourriez pas avoir dans votre vie. Mais le plus important se trouve dans le rapport de l'UNESCO, détruire l'héritage culturel, matériel et immatériel. On a détruit ça. C'est toute une chaîne de violation des droits, dont le seul but est la rentabilité. Et comme Toki est bien utile pour masquer les déficits budgétaires, ici, on change les lois tout le temps. Donc, ce ne sont pas des lois légitimes. On a le droit de leur résister. Il va y avoir des violences urbaines. Je les vois dès maintenant. Parce que le droit d'habitation est le droit principal dont découlent tous les autres droits.
Le foncier défoncé de la périphérie nord-ouest, appelé à être le nouvel Istanbul. Donc c'est un grand projet là, et un gros projet qui est articulé sur Başakşehir, dont on a parlé l'autre soir, Kayabaşı, où on se rend, et Taşolu, à Dönköy. Thank you.
mahallesi civarındayız aslında şu anda. Zamanında burada bir olaylar olmuştu. Bir kahve basılmıştı vesaire ve esasında buradaki halkın kendi arasında bir gerginlik yaşadığını televizyonlardan izlemiştik en azından. Haberlerden söylenen bu. Ama bu olaylar esasında bir şekilde devlete ya da belediyeye buraları biraz daha iyileştirme gerekliliğini getirdi diyelim. En azından bunu söyleyerek bir türlü Gazi denen yerin dönüşümü başladı. Ve esasında birkaç aşamalı olarak şu anda en son Avrupa konutlarında son aşamasını gördüğümüz bir dönüşüm yaşandığını söylemek mümkün. Buradaki insanların kendi nasıl denir, yatay hayat biçimlerinden ziyade şimdi o gökdelen gibi konutlardan gördüğümüz biraz daha yukarıdan ve dikey yaşam biçimi 2000'li yıllardan itibaren.
Et là, c'est un peu ce qu'évoquait Agnès. On a eu un Gueye Kondo qui a été défoncé par un gros projet d'accès au nouveau stade que vous voyez derrière vous, là, le stade de Galatasaray. Pour ceux qui peuvent se tordre le cou. C'est Toki qui a construit ce stade. Et donc, c'était une priorité nationale, hein, beaucoup plus importante que le logement social. Et pour accéder à ce stade, ils ont ouvert des routes inimaginables. Ils ont défoncé deux Gueye Kondo, dont celui de Arcelar.
Toki, c'est officiellement et juridiquement un acteur public. C'est l'agence du logement collectif. Mais alors attention, en Turquie, le logement collectif n'est pas le logement social. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de politique de logement social en Turquie. Donc Toki a été créé en 1984. Et devait s'occuper quand même de logements pour les plus nécessiteux. Mais a vite oublié sa mission première pour devenir donc, le plus gros constructeur de Turquie ces dernières années, et surtout avec l'arrivée au pouvoir de l'AKP donc depuis novembre 2002.
Evet, Arnavutköy yolu üzerindeyiz. Sultan Gazi Belediyesi civarları denebilir.
Voilà, non, mais il faut se dire que 90% des Istanbuliotes vivent dans ce genre d'environnement, ne voient jamais la Corne d'Or et le Bosphore au quotidien, et la mer. Et que c'est là que l'électorat de la KP, il est là. Quel gâchis. On est vraiment dans les nouvelles marges d'Istanbul. Il y avait un projet du Refah Partisi, du Welfare Party, en 94, quand il a pris la mairie d'Istanbul, et qu'ils appelaient les banlieues de l'islam, hein, qui était à Arnavutköy. Hein. Puis ce projet n'a jamais vraiment vu le jour officiellement, mais il s'est officieusement, on a eu des investissements, etc., et qui en fait se réalise maintenant. Et donc depuis 2008, Arnavutköy est un arrondissement à part entière, où ont été relogés les gens de Sulukule. Alors là, vous voyez au sud, hein, c'est intéressant, au sud, c'est Başakşehir. Et le projet, c'est des terrains militaires, entrent, et là, c'est décidé, ils vont sauter. Et ça va être urbanisé jusqu'à la route d'Arnavutköy. Hein.
Bu arada İfsınlar yeni yerleşim bilimleri yapıldı söylenebilir. Bunun çok büyük masif örneklerinden bir tanesi de Başakşehir. O zaman da Refah Partisi tarafından başlatılmış proje.
On a vu effectivement aussi l'armée à travers une société qui s'appelle Oya Inşaat et qui a construit une cité au nord de Başakşehir qui s'appelle Oyakent. Et c'est la première fois que la société de construction de l'armée turque, donc Oyak Inşaat, construit des logements désormais aussi pour des civils. Donc c'est un grand changement et qui laisse profiler à l'horizon, en définitive, un investissement plus grand de l'armée dans le jeu urbain, des terrains, hein, 17% du sol.
Pour ceux qui sont spécialistes de l'architecture, hein, des mosquées, hein, y a quand même des exemples incroyables. On a des édifices mais gigantesques et on va aller en voir un qui est même plus grand que Sultan Ahmet. Vous allez voir, ils ont fait gros et qui est un des... c'était dans le projet, hein, des banlieues de l'islam à Arnavutköy, c'était évidemment un équipement central que cette... C'est vraiment, c'est le nouvel Istanbul, quoi. Ils veulent refaire Istanbul. En fait, l'urbanisation par l'équipement religieux, quoi. C'est bien.
C'est glacé.
C'est glacé.
C'est pour accueillir une gigantesque communauté. Donc ils ont des espoirs de créer vraiment un centre, une ville. Pieuse,
Inançlı.
Pour ne pas dire autre chose, fervente,
tutkulu,
nombreuse,
çok,
et sans goût,
tatsız.
Il n'y a pas de quartier pour l'instant, il n'y a pas de ville encore, il y a un projet, il y a un fantasme.
On construit d'abord une mosquée et après,
voilà,
et
après
la
on
ville
fait
se fait autour.
Non,
Şimdi neredeyiz? Arnavutköy Belediyesi, Yeşil Cami yeni yapılmış, 5600 metrekarelik inşaat alanı, 3500 metrekarelik de bir cami alanı var, 850 metrekarede ibadet yeri denmiş, 12.000 kişinin içeriye girebileceği söyleniyor ve Sultanahmet'ten daha büyük olduğunu söyledi Perus, biz içeri girmedik ama söylenen o. Çok garip kaç minaresi var? 6 tane minaresi var. Şu anda biz sokaklarda hiç insan görmedik. Cami biraz acayip duruyor ve kime diye düşünüyorsun aslında.
Ama caminin başında duran bir görevli bayram günlerinde ve cuma namazlarında buranın dolduğunu söylüyor. Mesela geçen gün Ramazan'ın ikinci günde Tayyip Erdoğan gelmiş buraya. Bütün içerisi dolmuş, yetmemiş, hatta tüm sokakta bile namaz kılan insanlar varmış.
Evet, yılda bir kere belki, evet, öyle bir toplanmaca bir mümkün ama temel olarak aslında burada görülen şey buranın şeyin niyeti, yani belediyenin niyeti. Burayı merkez yapacağız. Sultanahmet'e benzetmesi, başka türlü evet, açıklayamıyorum.
Bir de benim dikkatimi çekti aslında o kapıdaki ay yıldız var. Bir de dini motifler var. Normalde hep camilerde dini motifler varken bu da hem ay yıldız hem dini motifler. Ya herhalde bir Türkçülük ve İslam sentezini caminin kapısında genel yeni algımız olarak gösterdiklerini düşünüyorum.
Yeni merkez, yeni algı.
Evet.
Ça vous intéresse pas d'acheter un truc ici?
Ouais, je vais en acheter 3 ou 4.
L'ancien responsable de Kiptash est actuellement le responsable de Toki. Donc Kiptash, c'est la société de construction de la grande ville d'Istanbul et qui est à l'origine de cette ville satellite qui s'appelle Başakşehir et qui là aussi a dévié progressivement d'une vocation qui était plus sociale vers un investissement dans le marché qui vise des classes plutôt aisées.
C'est vraiment des livraisons clés en main de villes entières, voilà, 65 000 habitations qu'on a visitées tout à l'heure, où on voit des écoles Toki, des hôpitaux Toki, tout est estampillé Toki, c'est une véritable...
Les centres commerciaux, c'est un projet quasi totalitaire, quoi.
şimdi Arnavutköy'deyiz. Arnavutköy Belediyesi sınırlarında. Mirkent diye bir yeni bir yerleşim mekanının tam yanındayız ama aslında yerleşim mekanı demek de çok mümkün değil. İçinde kimse yok, sadece binalar yapılmış. Esasında Peruz'un söylediği şu, bir çeşit yeni yatırım biçimi. Bir şey yapıyorsunuz, yeni bir kent inşa ediyorsunuz ve onun alıcıları geliyor ya da bir şekilde başka bir format. O da şu ki, Taşoluk mesela, Toki de buradaydı mesela, Toki'nin panosunu gördük ileride. Taşoluk'ta sulu kulelerin, daha doğrusu sulu kulelerden çıkarılan insanların yerleştirildiği yer oluyor. Tamamen etrafta sürekli yeni yerleşim bilimleri, yeni İstanbul'da denebilir bir anda.
D'abord subi une phase d'industrialisation sauvage et qui maintenant est inclus quoi dans ce redéploiement d'Istanbul.
Ça, ça n'existait pas il y a 5 mois. Viens voir. Toki fait ça mais à toute vitesse. Il y a 5 mois, il n'y avait rien. Oui, 5 mois.
Toki vend aussi une façon de vivre en ville, vend des modèles, des standards de vie centrés sur la consommation, une vie centrée sur la famille, une vie centrée sur la protection de la cellule familiale.
Non, ça c'est Kayabashi, c'est un des éléments de Kayabashi, mais ça, oh, jusqu'à Novodkoï, hein, ça. Oui. Les Toki sont forts.
Et donc, on a aussi les bousquets. Hein, tout ça est orchestré hein, d'une manière qui se veut intégrée avec les services sociaux, hein, mais sur un mode très, très classe moyenne frileuse et consommatrice.
Evet, Kayabaşı'nın önündeyiz şu anda. 5 ay içinde Toki tarafından dikilmiş onlarca büyük bina görüyoruz ve bir sürü de boş arazi var. Onların hepsi de kullanılacak, yeni binalar yapılacak ve 65 bin seti, combien de personnes? 65 bin kişi gelip buraya yerleşecek. Evet, gözün alabildiğine uzun her yerden, sağ yani şöyle bir doğudan batıya doğru. Sadece bina var, hepsi boş şu anda.
Avec de la bruyère, là. Je me rappelle moi, en 2000, je parcourais ces endroits, je m'y promenais quoi. C'était beau, il y avait une bruyère, il y avait toute une circulation, une circulation karstique, des eaux magnifiques qui sortaient là. Enfin bref, on va pas faire le vieux nostalgique.
Ece Ayhan. Ece Ayhan'ın usta işi değil.
Ben şiir okumada pek şey değil.
Ya ama önemli olmaz değil. Olabildiğince de. Ya sokaktan zaten sıradan bir şey olmasını istiyoruz. Öyle tamam. Bir şey olmasın. Tamam.
Seni gibi
Fakir kuş hiç unutmaz kitapların yakıldığı yıldı. 40 kapıdan birden devletle girdiğini gördük. Başsız bir at ve içindeki solgun süslü binicisin. Dervişlere göre parçalanmış ölüm doğudan dönüyordur. Onun için ki acı bir suyla üçe bölünmüş bir kent. Fakir kuş hiç unutmaz ustaları ölmüş oğlan çocukları. Denizden çıkınca birbirlerinin saçlarını tararlardı. Ah karpuzun içindeki kesmece delikanlım İstanbul. Yine utanarak saklıyor ve çürümüş çiçek kokuyorsun. Okuma parçası bir kentin üstünde kara güvercinler uçuşuyor. Fakir kuş hiç unutmaz. Su altın eğitimsel yasayı da. Tarihte nice ve nite şehzade bilmeden atını taşımıştır. İşte onların sandıkalarında usta işi gazeller oyudur.
Teşekkürler.
Sağ olun.
İyi günler.
Bulunan yolcu motorunda